Le texte que nous méditerons aujourd'hui a été au cœur d'une pause spirituelle, ce temps mis à part une heure le jeudi, c'était il y a quelques semaines. Mais de plus, le récit de Pentecôte dans le livre des Actes que nous avons lu dimanche dernier invite à relire ce récit. Ce sera donc aujourd'hui. Mais nous allons commencer par lire à nouveau le récit de Pentecôte, celui du livre des Actes, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'étaient pas là dimanche dernier. C'est donc dans le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 1 à 9. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les merveilles de Dieu. » Et puis nous lirons donc dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, les versets 1 à 9. Toute la terre parlait la même langue, avec les mêmes mots. Partis de l'Est, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Faisons donc des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent alors, « Bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les humains. L'Éternel dit, « Ainsi ils sont un seul peuple, ils parlent tous la même langue, et ce n'est là que le commencement de leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Descendons donc, et là brouillons leur langue, afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns des autres. » L'Éternel les dispersa de là sur toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'a appelée du nom de Babylone, ce qui signifie « brouillage », car c'est là que l'Éternel brouilla la langue de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur toute la terre. Le récit de Babel, de la tour de Babel, est un récit extrêmement connu. Il est aussi abondamment représenté avec de très nombreuses illustrations depuis des temps très anciens jusqu'à des représentations très contemporaines. Et nous pouvons particulièrement penser à celle de Peter Bruegel, l'Ancien, dont le tableau intitulé « La grande tour de Babel » est certainement l'un des tableaux les plus connus au monde. Mais ce récit est le plus souvent compris comme étant celui d'une condamnation et du châtiment divin de l'orgueil humain. En effet, ces humains du récit veulent se faire un nom ou une renommée, et ils se lancent pour cela dans une gigantesque entreprise, celle de construire une ville avec une tour dont la tête, le sommet, ira toucher les cieux. Alors, toucher les cieux, c'est aborder le domaine de Dieu, et non seulement le déranger, mais certainement aussi l'envahir, et finalement prendre la place de Dieu. Une forme, en quelque sorte, de remake du Jardin d'Éden, mais où l'humain joue pour lui-même le rôle du serpent tentateur. Il n'y a plus besoin de serpent tentateur extérieur. Il est vrai que l'histoire, dans son ensemble, et particulièrement l'histoire récente, au XXe siècle, avec les atrocités des régimes fascistes en Europe, dans le monde, a permis aux théologiens de lire dans l'organisation des humains de Babel celle d'un modèle de totalitarisme. Non seulement ces humains parlent une même langue, d'une même bouche, ce qui est une chose, mais en plus ils disent tous exactement la même chose. Et littéralement, d'après le texte hébreu, ils disent « Briquetons des briques et cuisons-les à la cuisson. » Ils sont tous alignés dans la même pensée, engagés dans la même tâche, avec ce but de construire une tour qui touche les cieux. Ce qui les caractérise est donc l'uniformité, et l'on ne sait plus très bien finalement qui est humain et qui est brique. C'est un peu la même chose, puisque tout le monde est passé par le même moule et la même cuisson. Même dimension, mêmes angles, même couleur, tout cela empilé. La réduction des personnes dans un état uniforme de briques, de matériaux dépourvus d'individualité, avec un langage uniformisé et contrôlé, visant à empêcher le déploiement d'une pensée indépendante et critique. Ces mécanismes mis en place par les pouvoirs totalitaires sont aujourd'hui bien connus. Et le récit des humains de Babel s'offre alors comme un miroir à ces terribles entreprises. Chers amis, un mythe n'appartient jamais au passé. Il se tient dans le présent comme une clé d'interprétation de l'histoire et des histoires. Et il n'y a pas que les grandes Babel du nazisme ou des Khmer rouges, il y en a aussi de toutes petites, à l'échelle d'un groupe restreint, mais dont les membres ne valent pas plus qu'une simple brique. Certes, il n'y a pas de chef à Babel, pas de guide suprême, pas de gourou, c'en est presque plus effrayant. Beaucoup de briques sont fabriquées à Babel. Ces humains sont ingénieux. Et la technique de la brique est parfaitement bien mise au point. Mais n'importe quelle technique pourrait être mise au service de l'ambition extrême, d'un projet extrême de se faire un nom, une renommée. Un projet qui uniformise et donc appauvrit les esprits. Haute jusqu'au ciel, la tour servira de repère, de ralliement. Aucun humain ne la perdra de vue. Elle sera le symbole puissant de ce commun de langues et de lieux qui rassemble les humains de Babel. Et comme souvent, l'orgueil est adossé à la peur. La peur de la dispersion sur toute la surface de la terre, la peur de la dispersion comprise comme un danger, comme une perte. Et ce qui serait perdu, c'est l'identité, cette identité commune générée et renforcée par la langue unique et le projet commun. L'identité d'humain de Babel est infiniment préférable et désirable, au point qu'il n'y a de place pour aucune alternative. Et Dieu descend pour voir ce qu'il en est. Dieu évalue la situation et ce qui est en jeu. Dieu brouille la langue et disperse les humains sur toute la surface de la terre. Mais pourquoi ? A demandé une des personnes de la pause spirituelle. Pour une fois que tout le monde se mettait au travail ensemble, pour une fois que tout le monde était d'accord sur un projet, pour une fois qu'on se comprenait, est-ce que ce n'est pas souhaitable ? Est-ce que l'humanité ne se porterait pas un peu mieux si au moins de temps en temps, tous s'accordaient ? Et il est vrai. Il est vrai que le récit de la Genèse que nous venons de lire ne porte aucun jugement négatif sur les humains de Babel. Ils ne sont pas des coupables. Quelques chapitres avant, dans le récit du déluge, il est clairement indiqué que le mal des humains avait été grand sur la terre, que les cœurs n'étaient remplis que de pensées mauvaises. Mais aux humains de Babel, Dieu ne fait pas de reproche. Il ne dit pas qu'ils sont orgueilleux. Qui plus est, la ville n'est pas détruite par un feu tombé du ciel, comme cela se produit pour Sodome et Gomorre quelques pages plus loin. Il est simplement indiqué, les humains cessèrent de bâtir la ville. C'est tout. Franchement, quel mal y aurait-il à habiter, à cohabiter dans la même ville ? Et si cette tour est construite jusqu'au ciel pour mieux communiquer avec le ciel, avec la transcendance, avec Dieu, quel est le problème ? On dirait que dans ce récit, Dieu agit de manière préventive, comme si les humains de Babel ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Le brouillage de la langue, la diversité des langages et la dispersion viennent alors contrer le risque d'un danger, d'un malheur inhérent à cette situation, un danger inévitable et majeur. Alors bien sûr, il y a le risque du totalitarisme. Mais pour nous aider à comprendre la nature profonde de ce danger, le récit nous livre l'évaluation de Dieu sur l'œuvre des humains de Babel. Ce n'est là que le commencement de leur œuvre. Désormais, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Le risque, le danger de Babel, c'est cela, que rien ne les empêchera. Alors cette extrême capacité humaine est vertigineuse. Elle peut être même séduisante. Mais alors, il n'y a plus de limite. Et les premiers chapitres de la Genèse, de 1 à 11, posent la limite comme condition de l'humanité des humains. En ce que ces chapitres mettent en scène l'œuvre divine de création comme l'instauration de limites. Limites posées aux ténèbres par la lumière, limites posées à la mer par la terre ferme, limites posées à l'humain dans le jardin par l'interdit de manger du fruit de l'arbre de connaissance du bonheur et du malheur. Et quand cette limite est transgressée dans le jardin, c'est l'interdit de l'arbre de vie qui est instauré comme limite avec un redoutable kéroubim qui en défend l'accès. L'œuvre divine est racontée comme œuvre de séparation, de distinction, et cela afin que puisse apparaître la diversité et les différences, non seulement celles entre espèces de vivants, végétaux, animaux, mais aussi entre humains. Et qu'au chapitre 4, Caïn tue son frère Abel, manifeste combien cette différence, cette altérité, même sous le mode de la fraternité, met chaque humain à l'épreuve. Et hors du jardin d'Éden, c'est-à-dire pour nous les humains, dans le monde et dans le temps, pour nous, demeure la limite que représente l'altérité. Et c'est celle qui risque d'être franchie, plus encore abolie à Babel, avec le langage unique, la pensée unique qui entraîne cette uniformité de briques, cette indifférenciation entre les humains de Babel. Ce qui est engagé à Babel n'est rien moins qu'une œuvre de décréation. Mais alors, il n'y aurait plus d'humanité. Cette humanité de parole et de relation à laquelle est offerte une alliance pour la vie. Alors le récit raconte que Dieu opère une nouvelle séparation dans la langue et dans le lieu, afin de relancer de l'altérité dans l'aventure humaine et d'y préserver la possibilité de la diversité. Lorsque nous craignons de perdre notre identité dans la dispersion, c'est-à-dire dans l'épreuve de la différence, le récit de Genèse rappelle que si, oui, l'altérité bouscule notre identité, puisque ce n'est pas la même que la nôtre, eh bien c'est ainsi, grâce à l'altérité, que notre identité évolue et reste dynamique. Quand il n'y a ni écart, ni différence, il n'y a que de la répétition, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de transmission, rien ne passe de l'un à l'autre, rien ne change, rien n'évolue, et notre identité fixe devient une identité vide, une identité sans vitalité, une identité morte. Babel est une impasse. Rien n'y passe. Et le Dieu dont témoignent les Écritures, le Dieu de Jésus-Christ, est un Dieu passionné par la diversité, par le foisonnement des diversités, le grouillement, est-il écrit au premier chapitre de la Genèse. Il vise à favoriser cette diversité, à tel point que le théologien catholique André Vénin peut écrire qu'en dépit de son étymologie, Babel, qui peut signifier « porte de Dieu », eh bien la porte de Dieu, ce n'est pas la ville. La véritable porte de Dieu, c'est la diversité humaine. La dispersion n'a pas d'autre objectif que de répandre cette diversité. Le brouillage des langues n'a pas d'autre but que d'engager à la rencontre de l'autre, à la traduction et au dialogue. Et nous, nous partons de là, de cette dispersion, de ce brouillage de langues, de cette réalité de diversité et d'altérité qui est garantie de notre propre singularité, celle dont manquent les humains de Babel, d'hier ou d'aujourd'hui, qui par peur n'envisagent que le même, les mêmes, au prix toujours de la liberté et de la responsabilité. Car liberté et responsabilité ne peuvent être effectives qu'en diversité et jamais en uniformité. La liberté, biblique, évangélique, ne se joue pas dans un rapport à soi, au même, mais dans un rapport à l'autre, au différent. Et la responsabilité entend premièrement que réponse est un appel puissant à l'individualité et à la singularité. Diversité, pluralité, liberté, responsabilité sont des expressions de la visée divine en faveur de l'humain. Et c'est aussi celle de l'Église. Car c'est ainsi que chacun est libéré pour son propre chemin, ses propres convictions, sa propre manière de vivre. Et le résultat, ce n'est pas un grand n'importe quoi informe. Le résultat, c'est l'hospitalité, accueil et reconnaissance d'autrui. Hospitalité fondée sur la confiance de Dieu envers chacun. Hospitalité fondée sur la confiance faite chère qu'a été Jésus le Christ. Le résultat, c'est l'engagement dans le dialogue, pas une juxtaposition indifférente à l'autre, aux autres, mais la parole et la traduction, y compris dans la même langue, afin que chacun nous puissions rendre compte de ce que nous portons à nous, en nous, et de ce qui nous porte, non pour nous justifier, mais pour rencontrer, comprendre et partager. Genèse 11 est un récit pour sortir des confinements. Car la dispersion pour la diversité n'aboutit pas au terrible isolement de chacun, elle trouve son accomplissement dans la communion de Pentecôte. Les récits de Babel et de Pentecôte correspondent, malgré leurs écarts d'époque, de rédaction, de culture, de langue de rédaction, hébreu pour l'un, grec pour l'autre. Et il nous enseigne qu'à Babel, Dieu sauve les humains d'un grand danger, parce que le Dieu créateur est le Dieu sauveur. Et ce grand danger est celui d'une fusion générale de tous, qui conduit à ce que plus personne ne compte, plus personne n'a de valeur, plus personne n'a de dignité. Et n'allons pas croire que ce danger est derrière nous. Il est autour de nous, il est devant nous, et nous avons besoin d'un grand coup de vent de l'esprit quand ce danger est sur nous, pour en être à nouveau sauvés, c'est-à-dire pour ne pas nous laisser séduire ou endormir quand la pression de l'uniformité menace la diversité. Un rassemblement qui se constitue dans le refus de la différence, de la diversité, a besoin d'un grand coup de vent de l'esprit pour ne pas se pétrifier et dévitaliser tous ceux qui le composent. La juste visée de l'unité de l'ensemble et du commun, c'est la diversité. Et la juste visée de la diversité, c'est l'unité, l'ensemble, mais dans le dialogue et la reconnaissance. Et l'esprit souffle de Dieu et l'énergie de ce mouvement. Il est l'élan de ce dynamisme. Babel et Pentecôte sont deux textes miroirs pour le monde, pour l'Église et pour chacun de nous. Faut-il être le même que les autres pour faire partie d'un ensemble? Qu'est-ce qui me pousse à chercher mes semblables? Qu'est-ce que j'y cherche? Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce qui me transforme? Nos constructions, nos projets, offrent-ils une réelle possibilité d'élévation d'autrui et de la qualité de nos relations? Ce n'est pas un châtiment de vivre parmi d'autres et avec d'autres différents. Ce n'est pas une corvée, c'est une chance. C'est comme du levain dans la pâte humaine de chacun. C'est un engagement d'humanité. Et c'est même une mission. Voyez-vous, le texte d'évangile proposé aujourd'hui à la méditation de toutes les églises, c'est la finale de l'évangile de Matthieu. Lorsque le ressuscité dit à ses disciples, « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Mais ne faites pas tous le même disciple. Ne faites pas de tous le même disciple. De même que les onze sont différents les uns des autres, Pierre de Jean et Thomas de Matthieu, mais aussi apprenez à traduire pour ceux qui n'ont pas la même manière de parler et de vivre. Traduire l'Évangile, traduisez malgré toutes les difficultés que la traduction rencontre, élargissez votre horizon et le leur. » Et puis Jésus poursuit, « Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Cet esprit de diversité par lequel chacun est reconnu inconditionnellement, qu'il soit petit enfant, ou quel que soit son parcours de vie et de foi. » Et Jésus termine, « Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Oh, pas des dogmes à suivre, à apprendre et auxquels se soumettre tous ensemble. Mais ce que Jésus a enseigné, c'est comment vivre et vivre de la divine confiance inconditionnelle, personnellement adressée et reçue. » de Babel à Pentecôte, et à d'autres textes bibliques encore, se tisse la toile chatoyante de multiples rencontres, d'une pluralité de dialogues et de la diversité humaine qui est la porte de Dieu. Amen.